Conférence de juillet 2021 à Fountain Valley. Le fardeau de la parole du Seigneur dans Malachie. Message 1. Nous allons avoir de la communion au sujet de Malachie. Tout le monde sait que c'est le dernier livre des saintes écritures de l'Ancien Testament. Et, dans un sens, il est très similaire au dernier livre du Nouveau Testament, dans la manière dont Dieu parle à son peuple. Si on regarde dans l'Apocalypse, les trois premiers chapitres spécialement, Dieu, quand il parle à son Église, à son peuple, il n'y a aucune doctrine dans cette parole. Cela montre que Dieu n'est pas si intéressé par les enseignements et les doctrines. Beaucoup d'entre nous sont très pour les doctrines et les enseignements, mais pas Dieu. Il n'est pas pour cela. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de la vérité, mais Dieu se préoccupe de notre condition spirituelle. Il ne s'agit pas de savoir combien tu sais, mais il s'agit de notre condition spirituelle, de ce que nous sommes. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous connaissons bien la Bible. Certains d'entre nous l'ont lu depuis plus de 50 ans. Mais beaucoup d'entre nous avons entendu tant de messages. Mais la question de Dieu, c'est, après avoir entendu tellement, quelle est ta condition aujourd'hui? Ou quelles sont les conditions des églises? Lorsque le Seigneur reviendra, même juste maintenant, n'est-ce pas? Avant qu'il revienne, il ne va pas te demander, Chelsea, combien tu connais la Bible. Récite-moi Hébreux 12. Je ne pense pas qu'il va nous tester de cette manière. Mais il va demander, après avoir su tellement, est-ce que tu me vis jour après jour? Est-ce que ta condition est selon ce que tu sais? Combien de réalités avons-nous? Sommes-nous vivants? Est-ce que nous entendons sa parole chaque jour? Sommes-nous obéissants à ce qu'il dit? Quelle est la condition des églises? Pendant tant d'années, nous avons parlé de l'unité. J'ai entendu tellement au sujet de l'unité dans ce dernier demi-siècle. Mais ce que j'ai vu parmi le peuple de Dieu, même parmi nous, c'est tant de divisions et de disputes. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Nous parlons de la vie, mais chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous parlons de doctrine, des enseignements et encore plus d'enseignements, des interprétations de la Bible. Il s'agit, oui, d'écrire ce qu'il y a dans la Bible. Alors, tu as ta vision et moi la mienne. Et qui a raison et qui a tort? Ainsi, à la fin, tu vas de ton côté et moi du mien. Qu'en est-il de la famille? Qu'en est-il de notre condition? Est-ce que nous vivons Christ dans notre vie de famille aujourd'hui? Nous parlons d'être des prémices dans ta vie quotidienne. Même cette semaine, en te préparant pour la conférence, est-ce que vraiment tu avais ce désir dans ton cœur d'être une prémisse? Et est-ce que tu aspires dans ta vie quotidienne, dans toutes les situations, à gagner Christ? Ainsi, le Seigneur ne se préoccupe pas seulement de savoir combien tu connais, même si tu sais la vérité, et alors? Bien sûr, il est bon de connaître la vérité. C'est mieux que de ne rien savoir. Mais, qu'en est-il de ta relation avec lui? Par exemple, le Seigneur a parlé à l'église à Laodicée. Laodicée pensait être si riche. Riche en quoi? Riche dans la Bible? Riche en connaissances? Est-ce que tu es riche? En quoi? En argent? Est-ce que tu penses que le Seigneur a besoin de ton argent? Il n'a pas besoin, même d'un centime. Tout lui appartient dans cet univers. Mais, probablement qu'ils étaient riches en connaissance de la Bible. Récemment, je partageais à certains saints, si j'avais arrangé les sept églises dans le livre de l'Apocalypse, certainement que j'aurais mis l'église à Philadelphie à la fin, parce que ça devrait être la dernière. Ça veut dire que l'église à Philadelphie, ça c'est l'église la plus merveilleuse. Il faudrait que ce soit la dernière de toutes les sept églises. Mais le Seigneur ne l'a pas fait ainsi. Tu penses qu'il a fait une erreur? Est-ce que Christ a fait une erreur? Bien sûr que non. Le Seigneur ne fait pas d'erreur. Mais il a mis l'église à Laodicée à la fin. Maintenant, dis-moi pourquoi. Parce que il se peut qu'il y ait un temps, peut-être qu'il y a 5 ans ou l'année passée, peut-être que tu étais comme l'église à Philadelphie. Tu avais cet amour fraternel. Tu dépendais entièrement du Seigneur. Tu étais saint. Et le Seigneur nous donne une porte ouverte. Tout dépend de lui. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de force. Nous l'avons lui. Peut-être que vraiment, tu étais comme l'église à Philadelphie. Mais ça, c'était peut-être il y a 2 ans, même peut-être 10 ans. Qu'en est-il de maintenant? À la fin, peut-être que tu vas finir comme Laodicée. Ça veut dire, chers frères et sœurs, que ce n'est pas si facile de rester dans une condition spirituelle vivante et saine. De maintenir cette condition, c'est très difficile. Je me souviens, il y a tant d'années, à Los Angeles, en 76 jusqu'à 81, c'était comme le paradis. Mais après cela, après, les églises sont tombées. Quel a été le résultat? C'est Babylone. Au début, l'église à Éphèse, quand elle a commencé, c'était une église merveilleuse. Éphèse veut dire désirable. C'est une église merveilleuse. Regarde l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est une épître merveilleuse. Mais, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, « J'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. » Et le Seigneur dit, « Si tu ne repens pas, je vais ôter le chandelier. » Enlever le chandelier. Quelqu'un m'a demandé récemment, qu'est-ce que ça veut dire enlever le chandelier? C'est facile. Ça veut dire c'est parti. Si tu enlèves cela, c'est parti. Et le frère qui a posé la question est quelqu'un qui fait comptable. J'ai dit, si quelqu'un t'enlève ta licence, qu'as-tu? Quelle est ta profession maintenant? Ah, c'est optométriste. Si la ville t'enlève ta licence, qu'es-tu? Tu peux fermer les boutiques. Tu peux pas pratiquer. Alors, si le Seigneur enlève le chandelier, et c'est écrit très clairement, les sept chandeliers d'or sont les sept églises. Ainsi, si le chandelier est ôté, cela veut dire que tu n'es plus l'église. Tu peux dire, mais je suis sur le terrain. Le Seigneur dit, oui, mais où est le chandelier? Il se peut que tu ouvres ta boutique, mais tu n'as plus la licence pour pouvoir pratiquer. Et si tu continues à pratiquer sans licence, tu pourrais bien finir en prison. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. À la fin de la Bible, le Seigneur ne se préoccupe pas. Es-tu l'Église ou es-tu pas l'Église? Es-tu sur le terrain? Quel terrain? Le Seigneur ne se préoccupe pas du terrain, il se préoccupe de ta condition. Tu as le nom d'être mort, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. À la fin, tu seras enterré sur le terrain. L'Église sera enterrée. Ce n'est pas ce que nous disons que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous pensons être. Mais c'est Dieu qui juge ce que lui dit. Ça compte. Tu peux penser à l'école. Oh, je suis le meilleur. Mais ça, c'est ce que toi, tu dis. Mais l'université dira non, non, tu as échoué. Alors qui a raison? Qui a raison? Nous avons tous besoin de réaliser quelle est notre condition. Ainsi, ici, dans le dernier livre des Écritures, de l'Ancien Testament, c'est la même chose que dans l'Apocalypse. Le Seigneur ne parle pas de doctrine. Il dit, tu es tombé. Tu es profane. Tu es corrompu. Oui. Tu as détruit le sacerdoce. Je vais même pas accepter ton offrande. Le Seigneur a beaucoup de choses à leur dire, pas au sujet des doctrines. Non. Mais le Seigneur se préoccupe de leurs conditions. Et spécialement, il parle au sacerdoce. Il est concerné par le sacerdoce. Comme dans l'Apocalypse, le Fils de l'homme marche au milieu des chandeliers d'or. Quel Fils de l'homme est-ce? Est-ce que c'est celui de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Non. Maintenant, il est celui qui est ressuscité, qui est sur le trône, qui est entré dans le tabernacle céleste qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ainsi, un tel homme marche au milieu des chandeliers d'or et il te dit quoi? Il dit que l'Église, c'est un sacerdoce royal. Sinon, le sacrificateur ne marcherait pas là au milieu. C'est pourquoi, dans le dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, dans Malachie, le Seigneur parle si fortement, vous, sacrificateurs. Pourquoi est-ce qu'il parle au sacerdoce? Parce que c'est la chose la plus importante parmi le peuple de Dieu. le peuple de Dieu doit être un royaume de sacrificateurs. Mais si le sacerdoce est corrompu, toute la nation est corrompue. Lorsque le Seigneur est venu sur cette terre la première fois, regardez les souverains sacrificateurs, les anciens, les scribes, les pharisiens, ils étaient tous corrompus. Et quel est le résultat ? Le résultat, c'est que toute la nation a été corrompue. Même, ils ont crucifié le roi. Ainsi, nous devons prêter attention à ce dernier livre de l'Ancien Testament. Ce ne sont que 4 chapitres. Vous avez 4 ans pour les lire. N'apprenez pas seulement la doctrine. Non, il faut prier et vous observer. Seigneur, est-ce que tu parles de moi ? Bien sûr. Si tu penses que tu n'es pas un sacrificateur, tu n'as pas besoin de lire. Tu n'en as pas besoin. Mais si on veut pratiquer le sacerdoce, alors le livre de Malachie est pour nous. Mais si tu ne te préoccupes pas du sacerdoce, alors oublie. Il ne parle là que au sacrificateur. Il s'adresse principalement au sacrificateur. Ainsi, venons-en à ce livre. Le livre de Malachie. Seul nom, Malachie. Personne ne sait si c'est le nom du prophète ou vous ne savez pas qui est ce prophète, mais il est un messager du Seigneur. Malachie veut dire « mon messager ». Dans hébreu, Malak veut dire « un messager » ou « un ambassadeur », quelqu'un qui est envoyé. Malachie veut dire « mon messager ». Et si on lit dans la Bible des 70, je l'ai mis là pour votre information dans le résumé. C'est Angelos. Angelos veut dire ange ou messager. Mais la signification principale, c'est un messager dans ce contexte-là. Comme le Seigneur, dans l'Apocalypse, il parle non pas aux églises, mais aux messagers de l'église. Beaucoup de traductions disent à l'ange de l'église, mais j'ai été dans l'église toute ma vie. J'étais dans l'église à Manille toute ma vie. Je n'ai jamais vu d'ange. Et je n'ai jamais entendu un ange parler. Mais j'ai vu tant de messagers envoyés par le Seigneur qui ont parlé. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont fidèles? Ce n'est pas facile d'être un messager. Es-tu un messager? Qu'est-ce qu'un messager? Je vais demander à Emmanuel, qu'est-ce qu'un messager ? Tu te présentes pour un travail en tant que messager. Quel sera ton travail ? Tu dois donner un message. Les messages. Le message de qui ? Les tiens ? C'est juste. Tu donnes des messages. Mais tu ne vas pas apporter tes propres messages. Tu n'es pas engagé pour écrire tes messages et les apporter par la suite. Tu dois apporter les messages qui te sont données par celui qui t'envoie. Il dira, ok, va apporter ce message. Alors tu le lis et tu dis, oh, j'aime pas ce message, je vais le changer. Ce message n'est pas bon. Et je ne suis pas d'accord, donc je change le message. Ainsi, après l'avoir changé, est-ce que tu es toujours un messager? Qu'es-tu? Tu es un trompeur. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas un messager fidèle. Tu n'es plus un messager. Maintenant, il est très difficile d'avoir la réalité de cela. En fait, dans l'Apocalypse, ce sont les anciens. Mais les frères ne pensent pas être des messagers. Donc ils s'appellent frères responsables. Et dans beaucoup de dénominations, ils appellent cela des frères conducteurs. Mais la Bible n'a pas dit, ce sont des frères responsables. Parce que tu peux dire, toi t'es responsable, moi pas. Tu es un frère qui conduit, alors tout le monde te suit. Tu es un frère conducteur, à la fin. Où vas-tu conduire les frères et sœurs? Une fois, dans notre communion à Fountain Valley, j'ai dit, il n'y a plus de frères conducteurs. Et plus de frères responsables. Parce qu'à la fin, tout le monde pense, oh, je ne suis pas responsable. Stéphane est responsable. Frère Emery est responsable. Je ne suis pas responsable. Es-tu sûr? Ainsi, j'ai dit aux frères, non, depuis maintenant, plus de frères responsables, plus de frères conducteurs. On appelle chacun des frères qui servent, parce que tu es un serviteur. Si tu t'appelles, je suis un frère responsable, j'ai entendu cela, je suis responsable de l'Église ici. Oh là là. Qu'en est-il si tu as tort? Je suis un frère conducteur. Si, regarde l'homme qui conduit ce pays aujourd'hui. Est-ce que tu veux suivre un tel leader? Mais les frères doivent être des serviteurs, ceux qui servent. Tu ne conduis pas. Tu sais, c'est très troublant. Vraiment. Parce que ça fait croire à celui qui conduit, je suis quelqu'un. Et ceux qui sont conduits pensent qu'ils ne sont rien. Alors du coup, celui qui conduit pense être quelqu'un et les autres pensent n'être rien. J'ai vu cela pendant ces dernières années. Des gens qui n'étaient rien, qui suivaient. Celui qui était quelqu'un et qui conduisait tout le monde ailleurs. Il conduisait les gens au mauvais endroit. Ainsi, n'essaye pas d'être un conducteur. Non, nous ne sommes rien. Nous n'avons qu'une personne qui nous conduit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous suivons l'agneau partout où il va. Parce que si tu penses que tu es quelqu'un qui conduit, tu veux toujours conduire. Ça m'est égal si tu es une sœur ou un frère. Mais tant que tu penses que tu es quelqu'un qui conduit un conducteur, le reste sera dans des problèmes à cause de toi. Non, nous suivons tous l'agneau. Il est notre seul leader. Il est notre seul maître. Le Seigneur l'a dit, un seul est votre maître, un seul votre conducteur. Pour l'Église, nous n'avons qu'une tête. Christ est la tête sur toute chose pour l'Église. Toi et moi, nous ne pouvons pas rien décider. Nous devons lui demander. Nous devons lui poser des questions. Ainsi, être un messager, c'est parler le message que le Seigneur veut donner à son peuple. Pas ton propre message, pas le mien. C'est pas facile d'être un messager parce que tu dois connaître celui qui t'envoie. Si tu ne sais pas ce que celui au-dessus de toi veut donner comme message à son peuple, qu'est-ce que tu vas donner comme message? Tu vas juste ouvrir la Bible en fermant les yeux, piquer un verset à Galates 1. Voilà, c'est le message. Non. Ça, c'est pas juste. Tu dois connaître le Seigneur. Tu dois savoir ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il veut nous dire. Et tu dois être quelqu'un qui cherche, et ton cœur doit être pur. Et ton intelligence doit être renouvelée. Il faut qu'il te parle. Si Malachi est un messager, je ne sais même pas si c'est son nom, parce que ça veut dire mon messager. Peu importe qui c'est, toi et moi, nous devons dire, Seigneur, que veux-tu dire à ton peuple? C'est pourquoi, au sept églises, le Seigneur parle aux messagers des églises, afin que ces messagers, s'ils sont fidèles, ils vont dire ce que le Seigneur leur dit. Mais, de manière évidente, ils n'ont pas été fidèles. Dans l'Apocalypse, les messagers doivent être des étoiles dans sa main droite. N'est-ce pas? Au milieu des ténèbres, ils doivent briller. Une étoile brille et te donne la direction au sujet de ce que le Seigneur veut, ce qu'il dit. Et tu dois être dans sa main droite, dans son autorité. Tu dois être sous l'autorité du Seigneur Jésus. Sinon, tu feras ta propre chose. Alors, tu n'es plus un messager. On l'a vu ça. C'est comme un pape. Vous ne savez rien, vous devez m'écouter. Je suis le pape. Si c'est le cas, alors c'est fini. Alors le Seigneur ne peut rien faire. Ainsi, le Seigneur a besoin de messagers fidèles. Chacun de nous, si nous recevons sa parole, alors on doit être fidèle pour parler ce que le Seigneur dit. N'ajoute aucun mot, ne retranche aucun mot. Sois fidèle. Même si les gens ne veulent pas écouter, tu dois quand même parler. Comme Ézéchiel. Le Seigneur a dit, tu parles, dis-leur ce que je te dis. Je sais que c'est un peuple au cou raide et qu'ils ne vont pas t'écouter. Mais tu dois quand même leur dire ce que je veux leur dire. Parce que si tu ne le fais pas, leurs péchés seront sur ta tête. Bien que tu puisses dire, mais Seigneur, ils ne vont pas écouter. Qu'ils veulent écouter ou qu'ils ne veuillent pas écouter, tu dois parler ce que Dieu dit. Ce n'est pas ta décision si les gens l'aiment ou pas. Peut-être qu'ils n'aimeront pas. En général, ce que Dieu dit, personne ne veut l'écouter. Malheureusement. Ah, malheureusement. Mais, es-tu un messager fidèle? Tu ne changes pas les mots? Oh, il y a une erreur grammaticale. Oh, j'aime pas la manière dont c'est dit. Je vais le changer. Non, ne change pas. Ne le change pas. Tu dis fidèlement ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, regarde ce pays. Personne ne dit la vérité. Tu vas écouter les nouvelles ou lire les nouvelles. Personne ne dit la vérité. Ils savent que c'est des mensonges. Ce sont des mensonges. Ce sont des messagers de mensonges, pas de la vérité. Il ne faut pas que ce soit appelé des nouvelles. Ça devrait être appelé mensonges. Parce qu'ils ne disent pas la vérité aux gens. C'est très difficile d'écouter, d'entendre la vérité aujourd'hui. Ainsi, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Nous devons savoir ce que Dieu fait. Le Seigneur a besoin de messagers aujourd'hui. Ces messagers. Mon messager, il dit le Seigneur. Le fardeau de la parole du Seigneur à mon messager. Malachie. C'est un nom merveilleux. Parce que c'est le message du Seigneur pour ce temps particulier. Nous devons croire que Dieu parle dans chaque âge pour accomplir sa volonté dans chaque âge. Pas il y a 10 ans, pas il y a 50 ans, même pas 500 ans du temps de Martin Luther. Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est son message aujourd'hui? Es-tu un messager? Le fardeau de la parole du Seigneur par Malachie, par son messager, à ce moment-là. Et c'est le dernier message. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est une longue période. Mais le Seigneur n'a plus parlé jusqu'à Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi, dans ce livre, à la fin, il dit « Je vais envoyer mon messager. » Encore, il est parlé de mon messager. Ça, c'était Jean-Baptiste. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient envie de l'écouter. Mais il était le messager, parce qu'à ce moment-là, tout était corrompu, tordu. Qu'en est-il aujourd'hui, dans notre époque? Est-ce que tout est vraiment droit? Rien n'est droit. Tout est tordu autant que c'est possible. Tu ne peux rien trouver de droit aujourd'hui qui est véritable. C'est très, très difficile. Très difficile. C'est pourquoi tu veux être son messager? Amen. Oui. Et si tu dis le message de Dieu à son peuple, spécialement à tes amis et à ta famille, parle-leur dans l'amour. Dis-leur la vérité dans l'amour. Dis-leur la vérité. Il ne faut pas argumenter. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Ce n'est pas nécessaire. Parce que si tu es fidèle pour dire la vérité, et que ton esprit est là, et que tu parles la vérité dans l'amour, comme Paul dit, alors le Saint-Esprit est avec toi, avec la puissance dans cette manière de parler. Alors il n'y a pas besoin d'argumenter. La vérité est très puissante. La vérité va libérer les gens. C'est ce que le Seigneur dit dans Jean 8. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira des ténèbres, des mensonges, de tant de liens. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de tels messagers. Que tu sois jeune, louez le Seigneur, c'est bon. Les gens diront, « Ah, je ne crois pas, j'ai entendu quelque chose d'autre. » Mais tu dois dire, « Ce que tu as entendu n'était pas la vérité. Je vais te dire la vérité. » C'est la vérité que je te dis. La vérité est si merveilleuse. C'est pourquoi le Seigneur doit sanctifier nos lèvres, n'est-ce pas? Parce que de notre cœur, la bouche parle. Ainsi, il faut un cœur pur. Et notre intelligence doit être renouvelée. Et nous devons avoir une oreille pour écouter ce que l'Esprit dit maintenant. Pas il y a 10 ans, pas il y a 40 ans. Je sais, certains disent, « Oh, il y a 40 ans, il y a 50 ans, frère tel et tel, et tel et tel, et tel et tel. » Oublie tous ces tel et tel. Nous devons écouter ce que l'Esprit dit aujourd'hui. C'est très important. Parce que nous vivons dans cette situation très spéciale. Et les gens peuvent ne pas apprécier. Ils n'aimeront pas ça. Nous parlons du sacerdoce depuis 4 ans maintenant. De la véritable pratique. Nous parlons de la pratique, pas de la doctrine. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'aiment pas cela. Nous parlons d'adorer. Mais tu dis quoi ? Faut chanter, chanter, chanter. Ça, c'est adorer. Peut-être que tu appelles ça l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration que Dieu veut. Il veut une adoration spéciale. Tu peux te prosterner. C'est aussi une forme d'adoration. Parce que le mot adorer veut dire se prosterner. Mais est-ce que tu penses que Dieu est satisfait si tu te prosternes 3 fois et ça, c'est l'adoration et tu rentres à la maison? Chante 10 chants. Certains ont été offensés parce qu'ils disaient, dire Abba Père, c'est déjà adorer. Et j'ai dit non, ça c'est être un fils. C'est l'esprit du fils qui en nous crie Abba Père. C'est merveilleux. On doit invoquer comme ça. Mais ce n'est pas de l'adoration, c'est l'esprit du Fils. Ils ont été mécontents. Ils n'étaient pas contents. Mais c'est OK. Mais Dieu nous dit très clairement que les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité avec les offrandes. Ça, c'est l'adoration que Dieu désire. C'est pourquoi le sacerdoce, même Pierre l'a dit très clairement, l'Église est une maison spirituelle, mais aussi un sacerdoce royal, saint, pour offrir des sacrifices spirituels, acceptables, agréables au Père, par Jésus-Christ. C'est écrit. noir sur blanc. Je ne pense pas qu'il y ait une autre manière de comprendre cela. Ainsi, si les gens n'aiment pas entendre, c'est OK. Parce que le sacerdoce est très très spécial. Quand on lit Malachi, vous allez comprendre que le service des sacrificateurs est très différent de faire n'importe quelle autre œuvre ou service pour Dieu. C'est très très différent. Bien. Quelle heure est-il? Maintenant, Malachi, mon messager. J'espère que ça va inspirer beaucoup de nous et avoir, que nous ayons le désir d'être des messagers dans vos familles, pour vos amis. Beaucoup d'entre eux sont encore dehors, peu importe où ils sont, priez pour eux. Priez pour eux. N'allez pas seulement et parlez. Non. Nous avons besoin de beaucoup de prières. Et ce n'est pas juste prier d'une manière générale, mais c'est prier devant l'autel d'or des parfums. Nous devons apprendre. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre, spécialement ici dans ce livre de Malachi. Mon messager. Tu es son messager. C'est merveilleux. Emmanuel, sois un messager du Seigneur. D'accord? Louez le Seigneur. Maintenant, la condition du sacerdoce était pas bonne. N'était vraiment pas bonne. Déchue. Spécialement après être revenu de Babylone à Jérusalem. Au début, après le retour, c'était peut-être OK. Bien que ce n'était pas pleinement OK. Mais beaucoup d'entre eux avaient des femmes païennes. Elles ont amené beaucoup d'idoles avec eux. C'était un mélange. Il y avait beaucoup de mélange. Lisez Esdras, Néhémie. Et vous pouvez voir. Ils sont revenus. C'était merveilleux. D'un côté, c'était vraiment merveilleux de revenir à Jérusalem. Elles ont mis la fondation, le fondement, elles ont commencé à offrir des sacrifices à Dieu. Mais de l'autre côté, il y avait tant de mélange. Ainsi, avec le temps, ça ne s'est pas amélioré. C'est plus facile de descendre que de monter. Je pense que c'est notre expérience, n'est-ce pas? De porter quelque chose contre le haut, c'est difficile, mais pour descendre quelque chose, c'est plus facile. La gravité va t'aider. Descendre, c'est si facile. Ainsi, tu peux réaliser que du temps de la première venue du Seigneur, comment étaient leurs conditions? Qu'est-ce que Jean a dit? Il a dit, génération de quoi? De quoi? De vipère. T'es sûr? C'est écrit. Jean-Baptiste devait être un homme très courageux pour dire cela. Génération de vipères. Il n'a pas dit ça à des criminels. Il disait cela aux scribes, aux pharisiens, à ceux qui avaient des positions élevées là. Vous êtes une génération de vipères. Qui vous a dit de venir et d'être baptisé? Ça, c'était la condition. Ça veut dire que même la parole dans Malachie ne les avait pas changés. Leur condition n'a pas changé pour devenir meilleure. Et après avoir lu cela, on peut réaliser non. Ils étaient vraiment ailleurs. C'est vraiment surprenant. Commençons par le chiffre 2 dans le résumé. Alors, lisons la parole. Verset 2, il dit, j'ai vraiment apprécié la parole du Seigneur ici. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Dans une telle condition, le Seigneur commence en leur disant « Je vous ai aimé ». Peut-être que le Seigneur aurait dû dire « Je ne suis pas sûre de vous aimer encore ». Mais le Seigneur leur a rappelé « Je vous ai aimé dès le début, je vous ai aimé ». Le Seigneur leur a rappelé son amour. Est-ce que ça vous rappelle ce que le Seigneur dit à l'église à Éphèse? Tu as laissé abandonner ton premier amour, ton meilleur amour. Ça veut dire, le Seigneur les aime encore, il se préoccupe de leur amour. Qu'en est-il de ton amour pour lui? Est-ce que tu m'aimes? Il te demandera, comme il a demandé à Pierre. Le Seigneur a demandé à Pierre 3 fois. Je pense que Pierre a été très surpris, très ennuyé de ce qui s'était passé. Le Seigneur lui avait dit que le coq chanterait 3 fois. Mais il a renié le Seigneur 3 fois. Et là, le Seigneur, après la résurrection, vient et lui demande, « Pierre, m'aimes-tu ?» Pierre a dit, « Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Le Seigneur a dit, « Pierre, m'aimes-tu ?» C'était difficile. Pour Pierre de dire « Oui, je t'aime. » Et le Seigneur lui a redemandé une 3e fois. « M'aimes-tu ? » Pierre a dit « Tu sais. » Est-ce qu'il l'aimait ? Vous devriez demander à Pierre. Je ne peux pas parler pour lui. Mais, qu'en est-il de toi aujourd'hui si le Seigneur te demande, m'aimes-tu? C'est très facile de dire, Seigneur, oui, je t'aime. Puis je m'en vais et je fais mes propres choses. Et je fais un tas de choses qui l'offensent. Puis, quand il me dit d'arrêter, ne fais pas, je continue de le faire et après je dis, Seigneur, je t'aime. Puis le Seigneur me demandera, m'aimes-tu, John? Je regarde ce qui s'est passé le matin et c'est déjà le soir. Oh Seigneur, tu sais. Est-ce que nous l'aimons? Ce n'est pas si facile de dire oui. Et nous sommes très rapides à dire oui. J'ai entendu dire « Nous aimons l'Église » il y a longtemps. Peut-être qu'il y a une fois un petit peu mais notre amour pour lui doit toujours croître. Il doit toujours croître. Ce n'est pas seulement de le dire. Parce que le Seigneur a dit, ces gens me louent de leur bouche, mais leur cœur est loin de moi, loin. Il ne s'agit pas juste de dire, Seigneur, je t'aime. Mais ça doit être exprimé dans notre vie quotidienne. Ainsi, le Seigneur a commencé en leur disant, « Je vous ai aimé. » Ça veut dire, « Je n'ai jamais arrêté de vous aimer. » Et l'amour du Seigneur est toujours absolu. Ça ne veut pas dire que son amour croît et croît. Non, s'il aime, il t'aime jusqu'à la fin. Les ayant aimés, il a aimé les disciples jusqu'à la fin. Même à la croix, il n'a pas changé son amour. Ainsi, si le Seigneur dit « Je vous ai aimé », c'est une parole très puissante qu'il adresse aux chrétiens. Rien n'est plus puissant pour toucher le cœur des gens que l'amour. Dieu t'aime. Son amour est très surprenant. Même les enfants, vous devez savoir que vos parents vous aiment. Vraiment. Bien sûr, ils vont peut-être te corriger parce que tu as besoin de correction. Mais ça vient de leur amour. J'ai dit à mes enfants, tu aimes tes amis, mais quand tu seras malade, qui prendra soin de toi? Ton meilleur ami? Si tu as besoin de chaussures, demande à ton ami de t'acheter une nouvelle paire de chaussures chaque mois. Qu'en est-il de cela? Ou de nouveaux habits? Tu penses que ton meilleur ami va t'acheter des habits? Ou te donner de la nourriture, ou t'amener au restaurant. Quel est le restaurant que tu préfères? Non. Mais pour jouer avec toi, oui, oui. Ça, c'est merveilleux. Il va jouer avec toi. Ça, ce n'est pas un vrai amour. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est la chose la plus puissante. Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi son amour sur la croix est très puissant. On essaye de convaincre les gens. Il est ton sauveur, il est mort pour toi. C'est pas juste qu'il est mort pour toi. Mais tu dois amener l'amour de Dieu aux gens. L'amour de Christ nous contraint afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour lui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Cet amour est un amour qui contraint. Mais si tu ne touches pas cet amour, c'est difficile pour toi d'abandonner quoi que ce soit. Parce que tu aimes les choses plus que tu n'aimes Dieu. Ainsi, la manière dont Dieu commence ici, c'est « Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. » C'est très, très important. Il faut toucher l'amour de Dieu. Ne jamais abandonner ce premier amour. Si je regarde en arrière, je me souviens. La première fois que le Seigneur a touché mon cœur, c'était vraiment quelque chose. Nous aimons sa parole. J'aimais passer du temps avec lui. Et je me souviens, lorsque le Seigneur m'a appelé, j'étais dans les nuages. Son amour a rempli mon cœur. Je flottais dans l'air, dans le ciel. C'était vraiment surprenant. Un tel amour, tu es prêt à tout abandonner. Rien n'est important. Plus rien n'est important. Parce que si l'amour de Dieu touche nos cœurs, ça change tout. Mais si notre cœur devient dur et qu'il ne peut pas nous toucher avec son amour, alors rien ne peut nous toucher. Rien ne peut te changer. Ainsi, ça c'est une parole puissante du Seigneur. C'est l'amour qui nous pousse à nous tourner vers lui. Ainsi ici, le Seigneur Dieu commence. L'Éternel Dieu commence par exprimer son amour à son peuple. Ce n'est pas parce qu'ils sont si bons, si grands, si merveilleux. Non, c'est un peuple au cou raide. Pas seulement eux, moi aussi. Est-ce que tu es si bon que le Seigneur t'ait choisi? Il aime ta chevelure, il aime la manière dont tu te coiffes. Ah, c'est pour ça qu'il t'aime. J'aime les cheveux d'Emmanuel, c'est pour ça que je le choisis. Non, non. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Même avant la fondation du monde, il nous a choisis pour être saints et sans tâche devant lui dans l'amour. C'est très difficile d'imaginer, de connaître cet amour. Et je pense que si tu es un sacrificateur, la chose la plus importante que tu dois connaître, c'est son amour. Pas « Oh non, il faut que j'offre de nouveau. » C'est mieux de rien offrir dans ce cas. Parce que tu vas amener n'importe quoi. Mes petites filles, quand elles étaient petites, m'ont amené un petit truc qui a collé à ma jaquette. Et je m'en suis beaucoup réjouie parce que ça venait de leur amour. Et je ne l'ai pas enlevé. Et quand il est tombé, il y avait une marque là sur ma veste. Ça venait de leur amour. Ce n'est pas la chose. Nous devons apprendre à servir, à faire les choses pour le Seigneur, que ça vienne de notre amour pour lui et que ça vienne de son amour pour nous. Si son amour n'est plus là, ce sera très difficile, fatigant. Oh non, il faut de nouveau que j'apporte quelque chose, c'est dimanche. Oh, c'est le nouveau dimanche. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il faut me préparer encore, il faut observer les fêtes, célébrer les fêtes. C'est très fatigant. Mais si tu l'aimes, waouh, louez le Seigneur. C'est à nouveau un temps de fête, alléluia. C'est comme un anniversaire, tu viens. C'est l'anniversaire de ton papa, qu'en est-il de cela? Ou c'est l'anniversaire d'Elisabeth, tout le monde est content. Oh non, c'est de nouveau un anniversaire. Personne ne dit cela. Notre amour pour lui est très important. Et ça nous pousse à continuer. Ça nous pousse vraiment à continuer. Apprenez. Apprenez. Ce n'est pas une doctrine. Si tu as cet amour pour lui, rien n'est impossible. qui peut nous séparer, dit Paul, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Les problèmes, la mort, la vie, ceci, cela, la persécution, la souffrance, toutes ces choses, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Rien. Rien. N'est-ce pas? Ainsi, louez le Seigneur pour cet amour merveilleux. C'est pourquoi je peux revenir à l'église à Éphèse dans l'Apocalypse. Le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour. Je n'ai pas laissé mon amour pour toi. Pourquoi toi, tu m'as abandonné? L'église, c'est mon épouse. Il veut une église glorieuse. Pas n'importe quelle église. Mais ils ont abandonné ce premier amour. Une fois que tu abandonnes cet amour, une fois que tu abandonnes ce premier amour, ce meilleur, il n'est plus le premier dans ta vie, mais le numéro 2, peut-être numéro 2, peut-être numéro 5. Mais s'il est déjà numéro 5, ça vient de 2, 3, 4, 5, puis il est numéro 10. Après un moment, il ne sera plus rien dans ta vie. Juste le sauveur. Merci de m'avoir sauvé. Salut. Oh Seigneur Jésus. On termine avec cette question de l'amour. Qu'en est-il de cela? De l'aimer. Et ça, c'est le plus grand commandement de tous, d'aimer notre Seigneur avec un petit peu de ton cœur, non? Avec de tout ton cœur, pas une partie de ton cœur. Souvent, ce chant me vient presque chaque jour. Que te donner, cher maître? Tu m'as tout donné, pas juste un peu de mon cœur, mais je te donne tout mon cœur. C'est le plus grand de tous les commandements, de tout ton cœur, et ça veut dire de toute ton âme et la partie principale, c'est ton intelligence, parce que tu vas penser à lui si tu l'aimes. La première chose qui vient dans ton cœur, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dis? Puis, avec toute ta force, oui, ça c'est le plus grand commandement. Et le deuxième est semblable au premier. C'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Ainsi, souvenez-vous du sacerdoce. La chose la plus importante, c'est que nous avons tous besoin d'avoir ce meilleur amour. Il est le numéro un. Ce n'est pas ton mari qui est le numéro un, il est le numéro deux. Mais le Seigneur est toujours le numéro un. Dans ton mariage, il est le numéro un. Colossiens dit qu'il doit avoir la prééminence en toute chose. Louez Dieu. Et j'espère que ce point va vraiment tous nous encourager, parce que c'est pratique, ce n'est pas une doctrine. Si l'amour est une doctrine, alors oubliez.